Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
De voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Selon une étude de l'université américaine Northwestern, les hommes PDG seraient mieux payés quand ils ont une voix qui sonne plus masculine. Autrement dit, le leadership aurait donc une voix grave et virile. A l'inverse, on reproche souvent aux femmes politiques leur voix trop aiguë ou criarde, jugée comme inaudible. Bref, en quoi l'éloquence serait genrée et selon quels critères? Et surtout, en quoi les codes oratoires jouent sur notre prise de parole, que ce soit en public et au travail? Bref, qu'est-ce que la voix dit de nous? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Marlène Colombe-Gully.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse Jean Jaurès, autrice de l'essai Sexisme sur la voie publique, voie V-O-I-X, femmes, éloquence et politique aux éditions de l'Aube. Ça vous surprend ou pas, cette étude américaine sur les PDG les mieux payés à la voix très grave?
Hélas non, pas du tout. On dit aussi que plus la voix des politiques est grave, plus elle est à même de susciter l'adhésion. Donc je vous laisse imaginer ce que nos femmes politiques ont à relever comme défi.
Oui, exactement. Ce défi, on va en parler, ce que vous appelez la malédiction. À nos côtés, je ne sais pas s'il a une voix de mâle, Jean Sommer, bonjour.
Il va essayer au moins.
Vous êtes coach de la voix et de la prise de parole, ancien chanteur, enfin toujours chanteur peut-être, on l'est
non.
Toujours.
Non,
terminé. Ouais. Auteur du livre La voix, cet outil du pouvoir chez Lattès. Alors vous intervenez dans de nombreuses entreprises, notamment pour apprendre la prise de parole forcément en public. La voix du manager aussi, vous dites, du leadership.
On va dire la voix de personnes qui sont aujourd'hui exposées à travers leurs responsabilités ou la nécessité de prendre la parole. Donc ça peut... Bien sûr, souvent être le manager, mais ça peut être aussi le jeune qui passe un entretien d'embauche.
Voilà, au masculin, au féminin, quels que soient les âges. Faire entendre la voix des femmes cinéastes africaines, c'est l'objectif du Festival international de films de femmes de Cotonou au Bénin. Et on en parlera en fin d'émission avec Cornelia Glalé, la directrice de ce festival féministe. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous aimez votre voix? Est-ce que vous vous sentez à l'aise à l'idée de prendre la parole au public? On attend votre témoignage au 33 7 64 45 51. 41.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Je suis présidente de la République. C'est une qualité, pas un défaut.
Alors, pour un homme, oui, peut-être. Pour une femme, c'est plus compliqué.
Le qualificatif femme n'est mentionné qu'à la 7e position par tous les focus group.
Si le nom d'Amélie de Rendeux évoque ma politique avant mon sexe, je m'en félicite. Et je vous suggère d'en faire autant, madame.
Au moment de votre élection, vous étiez avant tout la première femme présidente de la République. Mais les études sont claires, on a beaucoup
perdu là-dessus. Je ne suis plus la première femme présidente de la République. Peut-être plus une femme du tout.
Non, bien sûr. Mais le fait que les Français ne vous connaissent pas de compagnon, par exemple, est un réel handicap. Au fond, on ne sait pas qui est la femme derrière la présidence.
Vous allez faire quoi? M'inscrire sur un site de rencontre?
Ce que je comprends là, c'est que votre féminité est un atout, Amélie. Pas un obstacle.
Karine Le Marchand, une ambition intime. Ce format a beaucoup plu. Aucun politique n'a eu à s'en plaindre, bien au contraire.
Bon, allez, ça va, j'ai du travail.
Un extrait de la série française Baron Noir avec la comédienne Anna Mouglalis qui joue le rôle d'une présidente de la République française fictive. Actrice bien connue pour sa voix grave et rauque. Alors justement, Marlène Colombe-Gully, vous ouvrez votre essai en parlant de cette fiction qui incarne ce qu'on appelle la malédiction. C'est ça, la mal avec un accent circonflexe.
Oui, mais elle semble avoir conjuré justement cette malédiction. Et la question que je me pose, effectivement, en entendant la voix d'Anna Mouglalis dans Baron Noir, c'est est-ce qu'elle a été choisie pour incarner cette présidente de la République grâce à sa voix ou en dépit de sa voix ? Et Anna Mouglalis, enfin voilà, dans les nombreuses interviews qu'elle a pu accorder, a dit combien sa voix lui avait porté préjudice, notamment lors des castings. On lui avait même demandé de se faire opérer des cordes vocales pour retrouver ou pour trouver une voix qui était plus en accord avec les attendus de la féminité.
C'est ça.
Et je trouve vraiment que voilà, cette actrice et le rôle d'Anna Mouglalis dans Baron Noir pose de façon formidable le défi que représentent les voix des femmes au regard du pouvoir et de l'incarnation du pouvoir.
Ouais. Jean Sommer, vous rencontrez énormément de gens qui ont besoin de travailler leur parole en public, leur voix, que ce soit des hommes ou des femmes. Beaucoup de femmes qui se sentent mal dans leur voix.
Alors, beaucoup de femmes se sentent mal dans leur voix, pas forcément alors, par rapport au pouvoir, c'est par rapport à elles-mêmes déjà. Parce que la voix, c'est bien sûr une histoire culturelle, d'où on vient, mais c'est également une histoire physiologique. Donc il y a parfois un certain nombre de paramètres qui se sont mis en place à travers notre manière de grandir, dans un milieu où les gens se taisaient, ou bien où on a eu des problèmes de respiration. Enfin bref, il y a des spécificités, on va dire, féminines et masculines, indépendamment de la notion de culture qui effectivement a conditionné le rapport de la voix pour l'homme, pour la femme, les graves, etc.
Ouais. Vous, Marlène Collomb-Gulli, vous analysez dans votre ouvrage 50 ans de l'histoire politique, la parole publique des femmes politiques, et vous dites à chaque fois, avec les femmes, femmes politiques, c'est toujours trop ou trop peu, c'est ça ?
Oui, absolument. Ce qui m'a frappée, en fait, moi je suis partie de la réception de la voix des femmes politiques dans les médias. Ça me paraissait être un lieu d'observation particulièrement intéressant en raison des normes d'acceptabilité qu'on pouvait y lire. Critiquer une femme pour sa voix, c'est comprendre qu'aux yeux finalement des journalistes, des médias en général, cette voix n'était pas acceptable. Et ce qui m'a frappée quand j'ai travaillé, enfin, depuis très longtemps que je travaille sur, les politiques en général et les femmes politiques en particulier, c'est que quand une femme politique arrivait au pouvoir, très vite, on avait dans les médias des mentions qui étaient faites de leur voix. Une voix trop forte, trop aiguë, et là on a là le
criarde, on parle même poissonnière.
Voilà, poissonnière, hystérique, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler d'Edith Cresson, mais elle est devenue un peu archétypale de ce type de
propos. On en parlera tout à l'heure, oui.
Bon, super. Ou alors on ne l'entend pas, la voix est détimbrée, elle est trop sourde, inaudible. Oui. Donc voilà, c'est toujours ou trop ou trop
passé.
Peu, comme si, d'une certaine façon, les femmes étaient toujours de trop dans cet espace public et singulièrement cet espace politique.
Ce trop passé ou peu, vous le ressentez vous aussi, Jean Sommer ?
Alors c'est vrai que les femmes dans ce monde du pouvoir et depuis au fond que la voix existe en étant amplifiée, c'est vrai que les femmes sont souvent stigmatisées.
Oui.
Bien sûr par rapport à un héritage judéo-chrétien qui est masculin, Dieu était le père, c'est pas la mère, donc ça vient de très très loin. Et à part ça, encore une fois, il y a des questions personnelles de physiologie dans la représentation, c'est-à-dire que souvent, les voix d'hommes, souvent, pas toujours, sont plus stabilisées, alors qu'une voix de femme, par rapport à ses cordes vocales, va...
Pas toutes, justement. Et au contraire, on va leur reprocher d'avoir des voix trop masculines.
Pas forcément. Enfin, c'est autre chose, mais disons que la voix féminine est un petit peu plus subtile, plus de jeu, et en même temps, plus fragile sur certains plans, parce que... Bon, voilà. Alors, c'est ce jeu entre la personne physique et la représentation sans arrêt.
Alors, en parlant de voix, je vous propose d'écouter Simone Veil, ministre de la Santé, qui présentait son projet de réforme de la législation sur l'avortement. On est en 1974. Elle est à la tribune de l'Assemblée nationale, une assemblée majoritairement masculine.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. « C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Simone Veil, en 1974, Marlène Colombe-Gulli, vous en parlez comme une figure maternelle au parler humble. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est un extrait qui est très intéressant. Je pense qu'on peut l'écouter sans être bouleversé, parce que, bon, d'abord, en raison des enjeux de société évidemment considérables et de la personnalité de Simone Veil. Alors, parler humble, oui, parce qu'il me semble qu'elle a adopté au cours de ce long trajet qui a conduit jusqu'à la proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle a vraiment adopté un profil qui était conforme aux attendus du genre féminin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas hésité à mettre en avant ses qualités d'épouse, de mère, voire de grand-mère, puisqu'elle a posé dans les médias de l'époque avec sa petite-fille en particulier. Et dans le discours qu'elle a prononcé à l'Assemblée nationale, alors je vous encourage à le regarder sur l'INA, parce que c'est...
Oui,
c'est,
sur le site de l'INA, lina.fr.
Oui, c'est magnifique parce qu'on a ce décor qui est un décor extrêmement lourd, extrêmement républicain, et cette assemblée qui est essentiellement masculine, comme elle le rappelle, elle adopte une posture extrêmement douce et
ferme et grave à la fois.
Ferme et douce, et elle parle au nom de la première personne, ce qui est quand même très rare.
Oui, le jeu.
Donc, voilà, le jeu qu'elle utilise et la référence à son expérience de femme, ce qui n'est évidemment pas commun quand un ministre ou une ministre tient un discours à l'Assemblée nationale. Donc il me semble qu'elle joue là, elle incarne vraiment la féminité, et c'est probablement à ce titre qu'elle va réussir en partie à convaincre l'hémicycle. Et je dis qu'elle a une posture de dominer, parce que, enfin, de dominer par rapport aux attendus de la rhétorique classique.
C'est-à-dire pourquoi dominer ?
Parce qu'elle n'est pas dans les codes de l'éloquence classique. L'Assemblée nationale a une éloquence flamboyante.
Le tribun, voilà. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui.
Exactement. Elle n'est pas du tout là-dedans, absolument pas.
Ouais. Jean Sommer, vous qui avez l'habitude aussi, à un moment donné, vous décryptiez un petit peu la posture et puis les voix des politiques. Comment vous analysez les mots de Simone Veil à ce moment-là?
Alors moi, je suis moins dans l'analyse rhétorique.
Oui, non, mais comment vous le ressentez?
Ce que j'entends, je vais revenir sur la voix de Simone Veil, qui effectivement est une voix, on va dire, équilibrée, une voix d'adulte mature, quoi. Et ce que je rencontre beaucoup chez les femmes que je peux rencontrer, faire travailler, c'est cette quête de l'équilibre intérieur entre justement les différents niveaux, que ce soit les niveaux de voix et les niveaux de confiance en soi. Et au fond, quand la voix s'échappe vers les aigus, etc., il y a souvent chez les femmes...
Ça marque une fébrilité,
Ça marque un double jeu. D'une part, c'est vrai que l'écoute masculine, j'en viens, est souvent de mauvaise foi, parce qu'elle écoute, voilà. Mais c'est vrai aussi que, du coup, les femmes peuvent être complexées ou tendues ou sous pression, et ce double jeu, entre guillemets, pour faire court, de la moquerie et de l'inquiétude, crée ces voix un petit peu dures ou perdues, etc.
Ouais.
Alors qu'effectivement, Simone Veil, c'est vraiment une voix qui existe, qui se pose, et au fond, qui fait jeu égal, même si effectivement elle est seule face à beaucoup d'hommes, qui fait jeu égal avec les orateurs masculins. Quoi.
Allez, on continue de parler de nos voix, ce qu'elles disent de nous, de nos émotions, nos fonctions. On se retrouve dans quelques instants après le joueur de Cora malien, Balaké Sissoko, et la chanteuse Camille avec Cora sur RFI.
J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. Je ne sais pas ce que mon corps a, je ne sais pas. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. fais chauffer l'eau, me dis-tu tout bas. C'est de l'eau, pas du feu qu'il faut pour allumer ce bois. C'est de l'eau, pas du feu qu'il faut pour allumer. Ancora, cora, 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 cora. J'étais parti loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 cora. J'étais parti loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 cora.
Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle du pouvoir de la voix et de l'éloquence avec nos invités Marlène Colombe-Gully, professeure émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et autrice de l'essai Sexisme sur la voix publique aux éditions de l'Aube, et Jean Sommer, coach de la voix et de la prise de parole et auteur du livre La voix, cet outil du pouvoir chez la TES. Allez, on écoute vos messages à vous.
Je me nomme Ousmane Sall, je suis sénégalais, je suis un formateur dans le milieu BTP et minier. Donc moi, mon problème est que j'ai une voix qui est un peu rauque, donc du coup je prends la parole en public de temps en temps, et des fois j'ai un public à qui je dois expliquer avec un micro. Donc mon problème est que il y a certaines personnes qui trouvent que ma voix elle est superbe, elle est belle, elle est attirante, mais il y a d'autres qui me disent que vraiment ta voix elle est un peu bizarre, parce que c'est comme un gangster qui parle. Donc moi, mon problème est que est-ce que il y a une solution ou bien il y a des méthodes que je pourrais utiliser pour un peu calmer ma voix et puis changer la façon dont je parle. Merci.
8 milliards de voisins.
Bonjour, bonsoir. La RFI, la radio RFI.
Je suis Sita, je vous écoute à Abidjan.
Moi, c'est M. Steve. Merci et à tout à l'heure.
8 milliards de voisins, une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
RFI, la radio du monde, on est ensemble.
Bonsoir les voisins et les voisines. Moi, j'ai vraiment honte de ma voix. Est-ce que je parle? Mes amis se moquent de moi, mais mes frères, que moi, j'ai la voix d'une femme. Et ça me fait tellement mal. Même quand j'étais encore à l'école, quand on faisait les exposés, les TD, j'ai toujours honte de parler en public, même devant mes camarades de classe. Jusqu'aujourd'hui, il y a des moments que je parle en public, mais seulement devant ceux qui me connaissent et ceux qui m'écoutent. Parce que j'ai l'impression toujours que lorsque je parle, les gens vont se moquer de moi. Vraiment, ça me décourage, franchement. Moi, je n'arrive plus à parler en public. Merci beaucoup, bye bye.
Merci surtout à vous, Abdourahmane du Cameroun, qui lui a honte de sa voix de femme, comme il dit. Il y a Ousmane du Sénégal qui lui veut avoir une voix moins rauque, de gangster. Je vous regardais, Jean Sommer, les écouter. Il y a beaucoup d'injonctions aussi sur les voix masculines, hein. Voix de femme pour l'un, voix de gangster pour l'autre.
Moi, j'avoue que je suis très très ému, ça me touche énormément.
Pourquoi ça vous touche à ce point-là ?
Ça me touche parce que quelqu'un qui n'est pas en accord avec sa voix, c'est comme quelqu'un qui ne serait pas en accord avec sa vibration, avec son âme, avec lui-même, parce que la voix, c'est intime, quoi. Alors, je peux dire à la première personne qui dit qu'il a une voix rauque, moi je trouve qu'il a une voix superbe. Par contre, effectivement, la manière d'utiliser la parole, bon, peut-être que les gens qui critiquent peut-être la manière de parler, mais pas la voix. La voix, elle est très belle, elle est très pleine et il faut en être...
Mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix, hein.
Oui, parce que là aussi, aujourd'hui, la voix est devenue un élément de la représentation. Et il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ça ne se posait pas, les gens parlaient comme ils parlaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque la carte de visite. Et en 30 secondes, c'est vrai qu'on entend quelqu'un qui est simplement à l'aise, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui n'ose pas.
Et on parle des beaux parleurs.
Oui, sans aller. Disons que pour moi, il y a, comment dire, aujourd'hui un élément de réévaluation de cet outil qui autrefois ne se posait pas. Sans aller vers les beaux parleurs, simplement quelqu'un qui parle clairement, qui dit les choses clairement, que soit compris sans qu'on ait à faire d'efforts, c'est déjà un outil qu'on ne nous a pas appris à l'école.
C'est vrai.
À l'école, on a appris à écrire en silence et tout le monde sait faire une présentation écrite avec un titre, un sous-titre. À l'oral, on n'a pas cette culture. Donc les gens retournent ça contre eux parce qu'ils sont jugés là-dessus.
Outil de pouvoir, en même temps, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'intimité. Qu'est-ce que vous suggère ces messages de nos auditeurs, Marlène Colombe-Gulli? Avant de revenir aux femmes politiques.
Je rebondis sur le propos de Jean Sommer. Effectivement, on n'est pas dans une culture de l'oralité, en France en particulier. Et ça constitue sans doute un handicap pour tout le monde, d'abord pour les femmes, comme je le disais, mais manifestement aussi pour les hommes. Et je voudrais notamment réagir sur ce deuxième témoignage, ce monsieur
Abdourahmane,
qui dit qu'il a honte de sa voix,
parce
qu'il a une voix de femme. Et ça fait partie, effectivement, ces accusations d'avoir une voix de femme, et on reste là poli. Bon, vous voyez bien ce qu'il y a derrière cette voix de femme. Très souvent, il y a des injures homophobes qui se dessinent. Et c'est parce que, toujours, il y a cette dévaluation du pôle féminin au regard de ce que serait un pôle masculin valorisé avec cette voix grave qui est quand même beaucoup plus facile à porter. Mais je voudrais aussi l'encourager en lui disant que vous vous rappelez peut-être d'Emmanuel Macron quand il a fait son grand meeting, je crois que c'était en 2016-2017, en tout cas lors de sa première campagne présidentielle, et qu'il a eu cette envolée où il a dit « parce que c'est notre projet » où sa voix s'est envolée dans les aigus, et où tout le monde effectivement s'est moqué de lui. Bon, ça ne l'a pas empêché d'être élu président de la République, alors que ce monsieur-là ne soit pas découragé. Je pense que ça n'est pas dramatique du tout.
C'est ça. Allez, on revient aux femmes politiques françaises, très critiquées dans leur prise de parole. Souvenez-vous, la première ministre Edith Cresson, ça c'était lors de son discours de politique générale en 91, et plus récemment Valérie Pécresse, candidate des Républicains à la présidentielle en 2022. Là, c'était lors d'un meeting au Zénith de Paris, on les écoute.
Nous devons tirer fierté d'un bilan économique équilibré, salué par nos partenaires comme le fruit d'une politique vertueuse. Ces succès, ils s'appellent un franc fort, une inflation maîtrisée, un contrôle rigoureux de la dépense publique et la stabilisation des prélèvements obligatoires.
C'est à vous que je m'adresse maintenant, jeunesse de France. La jeunesse de France, celle qui veut vivre libre et vivre à fond. Je vous aiderai à prendre votre envol. Et je le dis à tous les jeunes de France, soyez rebelles, ne tombez jamais dans l'autocensure, ne doutez pas, votre jeunesse est une promesse. Battez-vous pour avoir cette chance d'avoir 20 ans dans un pays libre et encore puissant. Soyez la génération tricolore, fraternelle et audacieuse, celle qui file vers de nouvelles espérances, celle qui éveille nos consciences et qui se bat pour sauver la planète, celle qui part à l'assaut du monde en maîtrisant tous les langages. Vous êtes la France de demain. Cette nouvelle France, elle est pour vous.
Deux voix, deux époques. Commençons par Valérie Pécresse et son show au Zénith de Paris en 2022. Bon, on n'a pas les images, mais on peut dire que ça a été un show totalement raté. La voix, le rythme, la gestuelle, franchement, tout semblait emprunté, surjoué. Jean Sommer, honnêtement, elle a été trop coachée, hyper coachée, pas assez bien coachée, en tout cas pas coachée par vous.
Pour l'anecdote, j'avais lu dans le journal du dimanche, ce jour-là, le matin, une interview où elle disait, on lui demandait si elle avait travaillé, elle disait, j'ai répété avec mes assistants, mais sans coach vocal. Sous-entendu, s'entendre moi, c'est je suis sincère, moi je ne fabrique pas, moi je ne manipule pas. Et on a vu le résultat, quoi. Alors, c'est-à-dire que tout est faux. C'est qu'elle soit homme ou femme, c'est tout est faux. Mmh. Fabriqué, j'entends des accents gauliens, vaguement, j'entends...
Bah,
c'est à côté, c'est-à-dire que...
Mais pourquoi elle a voulu trop se... Et on va donner la parole à Marlène Colomb-Gulli. Elle a voulu peut-être trop se préparer parce qu'elle se sentait peut-être pas à la hauteur d'un meeting, je sais pas, moi.
Je pense qu'elle a voulu être cette femme héroïque, exemplaire et porteuse du drapeau national et être, je l'interprète comme ça, la De Gaulle au féminin. Mais chacun son rôle. Et effectivement, le plus difficile quand on est regardé par tant de personnes... c'est à peu près d'être simple et porteur en même temps. Et c'est le grand jeu, quoi.
Alors, en même temps, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont raté leur show. Hein. Là, on en a entendu beaucoup parler, hein, Marlène Coulon-Gulli, de celui de Valérie Pécresse. Hein.
Oui, absolument. Alors, Valérie Pécresse a fait l'unanimité contre elle, de même qu'Edith Cresson, qu'on entendait tout à l'heure, et de bien d'autres femmes politiques qui font facilement l'unanimité quand elles prennent la parole. Alors, je voudrais revenir simplement sur l'histoire des coachs vocaux. S'agissant de ce meeting, je pense au contraire qu'elle avait été hyper coachée, hein, notamment par l'acteur Benoît Solès et par Maître Spinner, un ténor, hein, comme on dit, du barreau. Donc, elle a été extrêmement préparée, et ça n'est pas un hasard si ce sont deux hommes qui l'ont préparée, probablement dans une rhétorique très classique, une rhétorique politique très classique, dit de ce fait, et vous l'avez bien souligné l'un et l'autre, apparaît comme étant artificielle et moi je dirais même empruntée. Emprunté parce que ça ne colle pas à la personnalité de Valérie Pécresse qui, pour le coup, nous délivre un message qui paraît tout sauf sincère. Et c'est d'autant plus surprenant que Valérie Pécresse, parmi toutes les femmes politiques, étant sans doute une de celles qui est le plus consciente des enjeux liés à la voix et à la prise de parole.
Bah d'ailleurs, d'intervenir, mais oui, ce soit aussi bien Valérie Pécresse qu'Edith Cresson qu'on a entendu tout à l'heure, toutes deux, parce que c'est à mon avis le seul point commun qu'elles ont, toutes deux ont reconnu que, elle n'était pas, que l'une avait raté son show et que l'autre ne maîtrisait pas totalement les codes oratoires. Il y a quand même aussi une autocritique.
Il y a une propension à l'autoflagellation chez les femmes politiques qui est tout à fait remarquable. Moi, je peux vous dire que j'ai écouté tous les discours de politique générale des premiers ministres sous la Ve République. Certains ont été lamentables, mais vraiment lamentables, de Pompidou à Jean-Marc Ayrault et j'en passe, même celui d'Édouard Philippe n'avait rien de transcendant. Et ça n'est pas pour autant que ces messieurs ont battu leur coulpe. Or, quelqu'un comme Edith Cresson a dit « Ah oui, c'était complètement raté ». Valérie Pécresse, qui n'a pas fait un discours de politique générale, mais enfin, a dit « c'est complètement raté, je ne suis pas dans le dire, je suis dans le faire ». Et ça, c'est ce qu'ont dit toutes les femmes politiques qui ont mis en avant une difficulté à prendre la parole, cette difficulté étant le masque d'une capacité à agir.
C'est ça.
Et ça n'est pas propre à la France. On a exactement les mêmes propos chez Margaret Thatcher, par exemple. Ça m'a beaucoup frappé.
Qui disait nous on fait et eux ils font des discours, hein, c'est ça, Jean Sommer.
Oui, moi j'ai juste une petite distinction à faire entre rhétorique et voix. Rhétorique et voix. Que Valérie Pécresse ait été coachée par effectivement des préparateurs mentaux ou de discours, ça je veux bien le croire. La voix, c'est quelque chose de spécifique. C'est comme la santé, c'est-à-dire qu'on peut faire du sport et à part ça, la santé, c'est une chose spéciale. Et la voix, j'entends donc aucun coach vocal ne peut avoir conseillé Valérie Pécresse comme ça, c'est-à-dire avoir des gestes et des respirations complètement discoordonnées. Enfin, donc, je pense que dans la grandeur, l'élan, etc., il y avait du coaching, mais dans la manière de vivre le moment, c'est catastrophique. Quoi.
Catastrophique. Bon, on a un appel au 33-7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins sur WhatsApp. 33-7 64 45 51 41.
Et c'est Joséphine qui nous appelle de Mbour au Sénégal. Merci d'être avec nous, Joséphine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour.
Bonjour à toutes.
Alors dites-moi, vous nous avez confié la préparer cette émission, vous aimez bien votre voix, mais voilà, elle vous échappe un petit peu cette voix, notamment quand vous passez un entretien d'embauche, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Quand je passe un entretien d'embauche, on me dit souvent que je manque d'assurance et de... comment dirais-je?
Dynamisme.
Dynamisme, voilà.
Ah, mais ils vous le disent carrément?
Ils me le disent carrément.
Ah oui.
Joséphine, ils me disent, Joséphine, vous avez les compétences et tout, mais vous manquez d'assurance et de dynamisme.
Oui, alors du coup, ça, à mon avis, ça vous stresse encore plus, j'imagine, non?
Oui, ça me stresse vraiment. Parfois, même, je suis stressée en parlant. J'essaie d'améliorer et j'essaie de parler à haute voix, juste pour faire des améliorations, mais... Je vois que ça ne marche pas. C'est... Je ne sais pas pourquoi, où se trouve le blocage.
Ah, le blocage. Alors, dommage que Jean Sommer ne soit pas au Sénégal parce qu'il vous expliquerait. Mais vous pouvez faire un petit tour sur son site. Il a un blog, Jean Sommer, sur Internet. Parce qu'on vous dit aussi que vous avez une voix d'enfant, c'est ça, Joséphine?
Voilà, on me dit que j'ai une voix d'enfant. Je parle trop bas même.
les blocages, Jean Sommer, Joséphine. On a tous des blocages de voix, mais qui peuvent remonter à l'enfance aussi. Hein. On oublie de dire. Hein.
On a des conditionnements, effectivement. Mais Joséphine,
je peux parler. Oui, allez-y, parlez à Joséphine.
Si c'est pas indiscret, vous avez quel âge, Joséphine?
J'ai 33 ans.
Oui, donc vous êtes encore proche de l'adolescence, mais effectivement, aujourd'hui, c'est la femme qui doit exister. Et c'est peut-être vous faire aider, je ne sais pas s'il y a un cours de chant ou quelque chose comme ça, pour sortir la voix, pour gagner en confiance, parce que c'est un peu comme sa propre voix, on ne la voit pas, on n'entend pas, et si on n'a pas de miroir, tous les jours on se regarde dans le miroir et on sait ce qu'on est, et si on n'a pas de miroir par rapport à la voix, on peut tourner un peu en rond sans avoir de solution, quoi. Donc c'est peut-être aller voir quelqu'un qui, en lui disant, écoutez, j'aimerais bien avoir ma voix de femme, plus assurée, plus affirmée, et ça peut...
Et les cours de chant, c'est bien ça.
Un cours de chant, en exposant ce que vous voulez, c'est pas forcément pour chanter des choses extraordinaires, mais pour dire, voilà, moi j'aimerais bien retrouver ma voix. Et ça devrait le faire.
Eh bien voilà. Voilà un petit conseil, Joséphine. En tout cas, moi, je trouve que vous avez une très jolie voix.
D'accord, je vais essayer de suivre ce conseil. Maintenant, je veux savoir, est-ce que cela peut constituer un obstacle par rapport à mes entretiens d'embauche ou bien...
Alors, moi, je ne suis pas recruteuse, mais à mon avis, c'est plus le problème de l'assurance. Après, c'est surtout l'assurance et savoir se vendre et en fonction du poste aussi.
Si vous voulez, dans un entretien d'embauche, très vite, la personne a besoin de savoir s'il va compter sur cette personne ou pas. Donc, si on entend dans une voix quelque chose qui hésite ou qui s'interroge, tout de suite, le recruteur se dit, cette personne est compétente, sympathique, mais je vais attendre quelqu'un qui soit encore plus sûr pour... Donc, effectivement, il faut gagner en assurance, quoi.
Et ben voilà.
Ah, d'accord.
Bon, et en attendant...
Je travaillais dans un multiservice, et là, on me disait que je suis sympathique et je suis accueillante, mais parfois, on me dit que je ne sais pas si c'est de la timidité ou... En tout cas, ils me critiquent souvent par rapport à ma voix.
C'est pas la voix, c'est la femme. Maintenant, c'est la jeune fille doit rester derrière. Maintenant, c'est la femme qui doit s'affirmer.
Allez, la femme Joséphine va s'affirmer.
Et comment je peux m'affirmer?
Ah, oulala. J'aime beaucoup son rire. C'est un petit peu long. Mais allez faire un petit tour sur Internet. Et vous verrez, il y a pas mal de tutos aussi pour mieux respirer, apprendre à chanter, tout et tout. Mais on fera une émission complète là-dessus, Joséphine. Merci pour votre appel au Sénégal. Merci. À bientôt. Pour terminer, Marlène Coulombe-Gulli, là on le voit, les difficultés à prendre la parole dans un entretien, on parlait des femmes politiques. Aussi, vous, dans votre essai, vous dites qu'il faut appeler à éduquer notre oreille à l'écoute de la parole des autres dans toute leur diversité sonore et d'en finir avec les codes normatifs.
Précisément, et je vous remercie de me permettre de réagir par rapport à ce témoignage de Joséphine. Je pense qu'il met particulièrement bien en avant la normativité de notre écoute. Pourquoi une voix telle que celle de Joséphine serait-elle identifiée à une voix d'enfant? Et si oui, en quoi une voix juvénile serait-elle moins porteuse qu'une voix plus mature? Donc je pense effectivement que nous avons à décloisonner un petit peu nos oreilles, notre façon d'écouter et à accepter la biodiversité des voix. Accepter des voix aiguës, des voix graves, des voix juvéniles, entendre des voix porteuses d'accents différents.
Oui.
On se souvient peut-être des réactions suscitées lorsque Jean Castex avait été nommé Premier ministre avec son accent du sud-ouest qui a fait couler beaucoup d'encre. Et oui, et alors, le seul accent n'est pas le non-accent de la région Île-de-France. Donc je crois vraiment qu'il faut faire un travail au niveau de la réception, de la perception, de l'écoute, et dès le plus jeune âge, s'ouvrir à la diversité des voix.
Ouais, parce qu'on se souvient qu'il y avait une époque donnée, effectivement, où on demandait aux gens de gommer leurs accents, j'en sommaire. On n'a pas, il y a pas de voix idéale de toute façon, même si la voix, on entend tout dans la voix, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de voix idéale, il y a surtout une complétude. Et au fond, quand les personnes disent qu'elles ne sont pas contentes de leur voix, c'est qu'elles sentent qu'elles ne sont pas alignées avec elles-mêmes.
Comme, oui, en phase.
Voilà, comme quelqu'un qui se tiendrait mal et qui sent qu'il a mal au dos, il y a quelque chose qui... Et il va aller voir un kiné qui va lui dire « faites quelques assouplissements et retrouvez votre verticalité ». À part ça, on peut mesurer 1m50, on peut mesurer 1m90, il y a toutes les verticalités et il y a toutes les voies possibles. Mais quelqu'un qui n'est pas tout à fait, effectivement, dans son assurance intérieure, c'est pas que sa voix soit moins bien ou pas bien, c'est qu'il sent lui-même. Qu'il n'est pas tout à fait dans quelque chose de complet, quoi.
Sauf que, voilà, on n'est pas complet, on n'est peut-être pas en phase, mais Marlène Coulon-Gulli, ce que vous dites aussi, c'est que tous ces jugements sur ces voix-là, où il n'y a pas de diversité vocale, elles portent aussi sur le discours aussi. C'est que le discours devient inaudible, on l'entend moins aussi.
Absolument.
Et c'est ça le problème, en fait.
Absolument. Entendre les réactions qui sont suscitées par une voix n'aide pas à se sentir bien dans sa voix. Peut-être Joséphine se sentirait-elle très bien dans la voix telle qu'elle l'a si on ne lui renvoyait pas sans arrêt son absence de normativité ou de conformité à la norme. Effectivement, la voix, c'est aussi ce qui permet au discours de se faire entendre. Et c'est là, à mon sens en tout cas, un des enjeux majeurs de cette prise de conscience des difficultés que peuvent rencontrer certains, et surtout certaines, dans leur accès à la parole publique. Une parole publique, une démocratie qui se prive de la voix de certains de ses membres, s'appauvrit considérablement. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre impérativement conscience de cette nécessité d'accueillir toutes les voix pour permettre à tous les types de discours d'être entendus.
Et en finir avec les voix de winner ou les voix de loser aussi, Jean Sommer. On parlait de ça aussi.
Là aussi, il y a des fabrications. Disons que notre époque fabrique. Je dirais que il y a des données culturelles et des données physiques, physiologiques. Quoi. Une voix de femme est plus haute naturellement puisque les cordes vocales sont plus courtes. Bon, c'est normal. Mais dans toute voix de femme ou d'homme, il y a des graves, il y a des médiums, il y a des aigus. Quelqu'un qui ne serait que dans ses graves, il serait dans ses chaussettes. Quelqu'un qui est dans ses aigus sans arrêt, c'est quelqu'un qui se sent au bout d'un moment ou qui peut être mal perçu ou fatigant parce que c'est des fréquences qui fatiguent, quoi. Donc, effectivement, à part ça, dans les modes, il y en a qui vont fabriquer la voix grave parce qu'il faut gagner de l'autorité. D'autres qui vont attribuer à la voix féminine quelque chose de très gentil, très léger parce que ça, c'était féminin. Bon, ça, c'est les fabrications culturelles. Ouais. Quoi. Mais encore une fois...
De toute façon, vous en parlez comme un instrument de musique. Hein. Il faut savoir l'accorder, on a plusieurs voix.
Exactement. La difficulté, finalement, dans cette vie, c'est d'essayer d'être à peu près équilibré aussi bien au niveau de sa voix que de sa santé, son corps, etc. Et c'est ça, au fond, la quête, quoi. Et quand quelqu'un n'est pas tout à fait bien, souvent, ce n'est pas que le regard des autres, c'est aussi qu'il sent qu'il y a quelque chose qui traîne, qui ne lui appartient plus ou qui voudrait se débarrasser, quoi.
Ouais. En tout cas, c'est un vaste sujet, c'est un beau sujet, parce que finalement, c'est à la fois la voix politique, la voix intime, la voix de l'enfant et de celui ou de celle qu'on va devenir. Hein. En tout cas, merci beaucoup Marlène Coulombe-Gulli. Et franchement, votre essai passionnant, Sexisme sur la voix publique, voix VOIX, et c'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et merci Jean Sommer.
Merci à vous.
Merci Jean Sommer, auteur et coach de la voix et de la prise de la parole. Merci. À bientôt.
Merci.
Allez, on continue à faire entendre la voix des femmes cinéastes africaines. Vous allez voir, c'est l'objectif du Festival international de films de femmes de Cotonou qui a lieu au Bénin jusqu'à demain. On en parle dans quelques instants avec Cornelia Glele, la directrice de festival, après Bobby McFerrin, Freedom is a Voice, tiens, sur RFI. Freedom is the courage. Freedom is a voice. Freedom is a song. Freedom is a spirit of the people who song. Freedom is a spirit. Freedom is a life. Freedom is the courage. Take up the hand. Bobby McFerrin sur RFI, on continue à parler des voix des femmes cinéastes du Festival international de films de femmes de Cotonou au Bénin. Bonjour Cornelia Glele.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste, féministe, directrice de ce festival que vous avez créé en 2019, justement pour promouvoir des films réalisés par des femmes en Afrique. Pourquoi sont-elles sous-représentées encore dans le métier ?
Je pense que les femmes sont sous-représentées dans le cinéma parce que il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, donc la première, c'est, je pense, les maux sociaux, donc la maternité, le conjoint qui ne veut pas que les femmes fassent du cinéma, et on a plein de freins qui empêchent les femmes elles-mêmes qui n'ont pas confiance en elles.
Voilà. Oui. Une autocensure.
Donc, il y a tout ça.
Ouais. Et ça change un petit peu avec les nouvelles générations, en se disant, bah, tiens, pourquoi pas se lancer dans ce milieu, même si ça reste encore un milieu majoritairement masculin.
Oui, et puisque vous parlez de la voix, je pense que les femmes ont de plus en plus de voix dans ce, ouais. dans ce domaine-là. Dans les festivals, on remarque qu'il y a plus de femmes par rapport à il y a quelques années. On voit qu'il y a de plus de festivals de films de femmes. On voit qu'il y a des femmes techniciennes, donc je pense que oui, ça commence à changer, même si c'est vraiment timide, mais ça change aujourd'hui.
Voilà, doucement mais sûrement. Alors, 18 films ont été présélectionnés, hein, et vont être examinés, hein, par un jury international, verdict demain. Quel sujet traite-t-elle? J'imagine que ça doit être assez varié, mais des sujets féminins ou pas? Des sujets de société?
Pour le festival, on n'exige pas que le film traite d'un sujet féminin. Le plus important, que ce soit une réalisatrice qui le fasse. Mais quand on regarde la sensibilité des films, il y a beaucoup de films qui parlent de violences faites aux femmes, de l'autonomisation de la femme, de la sororité. Donc, on retrouve quand même des sujets qui touchent aux femmes.
Et ces sujets, ils attirent ou pas les diffuseurs ou les producteurs?
Grosse question.
Oui, c'est ça le problème.
C'est ça, parce que aujourd'hui, les femmes qui font du cinéma, c'est encore malheureusement vu comme de l'amusement ou un passe-temps. Donc, je pense qu'on attire moins que les hommes. Et j'espère que le festival et d'autres creusets comme ça vont permettre aux gens de comprendre que ce qu'on fait, c'est un travail sérieux et que nos films peuvent être distribués et montrés partout.
Oui, bien sûr. Et justement là, Cornelia Glélé, je disais, hein, le festival a commencé depuis mardi. Ça attire quoi? Un public mixte ou essentiellement des femmes?
Un public très mixte.
Ah, quand même. Ah.
Oui, très mixte. Et hier, je regarde dans la salle, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes et on était très contents aux projections. Il y avait beaucoup d'hommes qui posaient des questions et c'était pour comprendre. En disant, par exemple, est-ce que quand on siffle une femme dans la rue, est-ce qu'on fait mal?
Ouais.
Est-ce que ça vous fait pas plaisir quand on fait pas ça? Et ça crée de vrais débats. Et nous, ça nous fait plaisir que des hommes viennent à des instances comme ça, parce que ça nous permet aussi derrière de leur dire véritablement ce qu'on veut.
Cornelia Glélé, et je rappelle que vous êtes directrice de ce festival international de films de femmes à Cotonou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
8 milliards de voisins.
Bonjour, bonsoir. La RFI, la radio RFI.
Je suis Sita, je vous écoute à Abidjan.
Moi, c'est Monsieur Steve. Merci et à tout à l'heure.
8 milliards de voisins, une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
RFI, la radio du monde, on est ensemble.
8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Lundi, vous retrouverez comme d'habitude Emmanuel Bastide avec une rediffusion de l'émission sur les enjeux de l'assainissement en Afrique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end à l'écoute de RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.